En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Academy, la première radio académique francophone au monde, avec, vous le savez, une semaine chargée en termes de séances solennelles. Lundi 13 juin avait lieu le bicentenaire, la séance solennelle pour le bicentenaire de la naissance de Tocqueville que Canal Academy a retransmis en direct, que vous pourrez entendre de nouveau d'ici la fin de la semaine sur cette antenne. Et puis ce mardi 14 juin, nous avions rendez-vous sous la coupole, cette fois avec l'Académie des sciences. Grande séance solennelle de réception des nouveaux élus, 24 nouveaux académiciens pour les sciences, avec différentes communications, une allocution de M. Édouard Brézin, président de l'Académie et président de séance, également présentation par Mme Nicole Ledouarin et M. Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels, présentation des membres élus en 2004. Vous pouvez retrouver la retranscription intégrale des textes sur le site de l'Académie des sciences et tout de suite sur Canal Académie. Nous partons sous la coupole pour écouter la retransmission de cette séance solennelle, réception des nouveaux élus Académie des sciences, le mardi 14 juin après-midi.
Mesdames, Messieurs, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous fera l'honneur d'assister à cette séance, mais il est retenu à la minute présente par les questions orales au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc, lorsque son arrivée sera annoncée, si vous le voulez bien, nous nous interromprons pour l'accueillir et reprendrons la séance après en sa présence. Mesdames et messieurs du public qui nous faites l'honneur et l'amitié d'être aujourd'hui avec nous, Madame la secrétaire perpétuelle, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, mes chères consœurs, mes chers confrères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'élection, en 2004, de 24 nouveaux membres dans notre compagnie. Cette année 2004 fut en effet la troisième de nos quatre glorieuses. 2005 sera donc la dernière. Quatre années de croissance qui nous permettront de porter l'effectif de nos membres à 250. Cet accroissement a parfois surpris nos confrères des autres académies de l'Institut de France qui ne semblent pas souhaiter suivre cette voie et il nous faut donc l'expliquer. En ce qui concerne les sciences, nous ressentions le besoin de garder un contact avec la science vivante, de faire place aux disciplines émergentes, d'avoir en notre sein de nombreux membres en activité dans des laboratoires de recherche. Le jeunisme n'est certes pas une vertu suffisante et bien des membres de notre compagnie nous montrent avec bonheur que la passion pour la science peut rester intacte alors même que l'involution physique s'installe. Mais la règle de nos statuts qui nous impose de ne pas élire plus de 50% de membres âgés de plus de 55 ans dans une année déterminée est fort bienvenue. Quant à l'effectif total, la comparaison avec les grandes académies étrangères montre que nos motivations sont largement partagées et même dépassées si on examine leur composition et qu'on la rapporte à la population concernée. 1912 membres américains de la National Academy des États-Unis, 1249 à la Royal Society, qui fait une place au Commonwealth, environ 1300 à l'Académie Léopoldina de nos voisins d'Outre-Rhin. Mais, avant de quitter ces questions d'effectifs, j'ai le triste devoir d'évoquer devant vous la liste des membres qui sont disparus depuis notre séance de juin 2004. Chronologiquement, j'évoquerai d'abord notre associé américain, Joseph Dobb, un mathématicien, un probabiliste qui poursuivit l'œuvre de Paul Lévy et enseigna à l'Université d'Illinois. Jacques Ruffier, membre de la section de biologie humaine et sciences médicales, qui a fondé une discipline, l'hématologie géographique, qui a apporté à l'anthropologie un éclairage original. Ching Shen Chern, associé chinois, mathématicien des plus éminents, qui partagea sa carrière entre la Chine et les États-Unis. Ses découvertes en géométrie différentielle appartiennent aux plus grandes constructions mathématiques du XXe siècle et elles ont également marqué la physique théorique. Gérard Debreu, associé américain de la section de mathématiques également, un normalien de la rue d'Ulm, qui apporta à la théorie économique des bases rigoureuses et obtint le prix Nobel d'économie en 1983. Ernst Mayr, associé américain, l'un des plus grands biologistes de l'évolution, qui était souvent qualifié le Darwin du XXe siècle. Il me faut évoquer ensuite la disparition d'Hubert Curien, cet homme qui avait su gagner le respect et l'affection de toute la communauté scientifique et de tous ceux qui avaient eu la chance de l'approcher. Brillant cristallographe, il fut nommé professeur à 27 ans. Il apporta aux institutions qu'il dirigea, notamment le CNRS et le Centre national d'études spatiales, et au gouvernement auquel il appartint, son amour de la science et une bienveillance qui n'obscurcissait pas sa lucidité. Je vous présente, très chère Madame Curien, l'hommage respectueux et attristé de toute notre Académie. Alexandre Favre, enfin, membre de la section des sciences mécaniques, qui fut l'un des grands de la mécanique des fluides et de la turbulence. Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques instants de recueillement en pensant à nos disparus. Je voudrais évoquer maintenant quelques éléments marquants de la vie de notre Académie depuis la réunion de juin 2004. Celle-ci ne pouvait rester à l'écart du grand débat qui s'était engagé depuis les premiers jours de 2004 sur l'organisation et l'avenir de notre système de recherche. En fait, elle l'avait même précédé, car nous avions tous conscience de la crise qui couvait. Sous l'impulsion de notre confrère Jean-François Bach, un groupe de réflexion constitué en 2003 proposa un rapport comportant de nombreuses propositions qui fut adopté par l'Académie au printemps 2004. Mais mon prédécesseur à la fonction que j'exerce aujourd'hui, le professeur Beaulieu, et moi, fûmes convaincus que l'Académie devait peser pour que le mouvement des chercheurs en colère se transforme en une force de proposition et symétriquement pour que le gouvernement soit à l'écoute de la communauté scientifique puisqu'il avait décidé en avril 2004 de mettre en chantier une loi d'orientation et de programmation pour la recherche et l'innovation. Plusieurs membres de notre compagnie devaient s'impliquer personnellement dans le comité d'initiative et de proposition que nous avions constitué avec des membres de tous âges de la communauté scientifique et quelques personnalités issues d'autres composantes de notre société. C'est ainsi qu'à l'issue d'états généraux, au cours de l'été passé, un colloque se tint à Grenoble fin octobre, où nous avions réussi à faire évoluer les cahiers de doléances en un ensemble de propositions. Un rapport fut remis au gouvernement en novembre. Le dialogue qui s'ensuivit avec les services du ministère et du ministère délégué chargé de la recherche s'engagea sous d'excellents auspices. Mais il devint rapidement plus complexe lorsque des différences d'appréciation sur les mesures à prendre se firent jour au sein même du gouvernement. Cela, et aussi parfois des divergences assez classiques entre universitaires, responsables de grandes écoles, chercheurs d'organismes, devait conduire à de sérieux retards dans l'élaboration du projet de loi. La conscience de la nécessité d'écouter les objectifs et les craintes des divers acteurs, si nous voulions aboutir, les échéances politiques liées au référendum, dont nous mesurions bien qu'il pouvait aussi nous priver des interlocuteurs avec lesquels nous avancions, conduisit finalement, depuis la mi-avril 2005, à un travail constructif et efficace, notamment sous l'égide de la direction des enseignements supérieurs. Une communication du ministre François Fillon au Conseil du ministre du 18 mai présentait une série de propositions tout à fait constructives qui démontraient que le gouvernement avait pris conscience, enfin, de la priorité à accorder à la recherche. Malheureusement, le calendrier peu propice à des initiatives novatrices empêcha la prise des derniers arbitrages interministériels, en particulier ceux qui concernaient la destination des moyens et la programmation des emplois. Ceux-ci devraient intervenir dans les jours qui viennent, et je veux croire à la promesse formelle que nous avons faite en avril 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La loi, disait-il, sera effectivement en action le 1er janvier 2006 et la préparation du budget 2006 sera en harmonie complète avec les principes de cette loi. Le Premier ministre Dominique de Villepin a affirmé dans son discours du 8 juin à la Chambre des députés sa volonté de poursuivre sur cette voie. Nous avons donc recommencé à tisser les fils dans l'espoir que nous verrons enfin la sortie de cette longue période de crise. Il me faudrait une heure entière pour analyser devant vous les principales dispositions envisagées et il ne me reste que 3 minutes tout au plus. Je me contenterai donc de dire que malgré l'importance des difficultés résiduelles, j'ai encore l'espoir qu'au sortir de cette longue traversée, la recherche publique française au sein des universités et des organismes se trouvera nettement renforcée, que l'on pourra enfin renverser le mot d'ordre et dire « la recherche est sauvée ». C'est à cette condition en tout cas qu'elle pourra prétendre attirer les jeunes de qualité dont notre pays a le plus grand besoin, alors que trop souvent ils se détournent d'elle aujourd'hui. L'une des missions premières de l'Académie est de veiller à la qualité de l'enseignement. Un groupe de travail constitué autour de Mme Ledouarin, secrétaire perpétuelle de la 2e division, avait déjà conduit en 2004 à un rapport de l'Académie destiné à la commission Tello. Mais le travail s'est poursuivi. C'est ainsi que des recommandations destinées à l'enseignement des sciences dans les IUFM, les instituts de formation des maîtres, viennent d'être formulées. Le travail remarquable de l'équipe constituée depuis une dizaine d'années autour de nos confrères Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéret, a conduit une fraction significative des maîtres et des écoles à adopter un enseignement inductif des sciences, un enseignement actif reposant sur l'expérimentation et bannissant le dogmatisme là où il n'a pas de raison d'être. Le succès de cette approche auprès de nos enfants est considérable. Cette méthode de la main à la pâte est maintenant imitée, adoptée par plusieurs pays en Amérique du Sud et en Chine notamment. Mais tout reste à faire pour adopter des méthodes de même nature à l'ensemble de l'enseignement obligatoire, primaire, collège, à nos différents types de lycées, voire même au cycle universitaire de sciences. C'est dans ce but que l'Académie et le ministère de l'Éducation nationale ont signé en mars dernier une importante convention cadre qui nous engage à réfléchir à l'ensemble des questions d'enseignement, de la maternelle jusqu'aux universités et même au devenir des docteurs. C'est une tâche importante qui va mobiliser toutes nos énergies dans la durée. Quelques mots maintenant sur l'année mondiale de la physique. Nous y sommes entrés depuis le 1er janvier sous l'égide des Nations Unies et de l'UNESCO. Les physiciens français, soutenus par l'Académie, la Société française de physique, le ministère de la Recherche, se sont fortement mobilisés pour faire comprendre au public, et en particulier aux jeunes, combien la science de notre temps était ouverte et avait besoin d'eux. Le prétexte, en quelque sorte, est la célébration des articles de 1905 du jeune Albert Einstein, qui, dans 3 domaines différents, devait changer irréversiblement notre façon de voir le monde. Il est intéressant de mesurer combien ces avancées, a priori, je ne peux pas dire éthérées, puisque Einstein nous a délivré de l'éther, mais disons élevées, presque ésotériques, sont présentes aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Sans la relativité, nous ne comprendrions ni le monde subatomique, ni l'énergie nucléaire, ni les étoiles, ni la cosmologie, ni l'histoire de l'univers, ni même le GPS. Sans la compréhension du caractère dual des photons, grains de lumière et ondes, nous n'aurions pas eu la physique quantique dont sont issues la physique atomique, celle des noyaux et des particules subnucléaires. Nous aurions ignoré une très grande partie de la chimie. Nous ne comprendrions rien à la physique des solides, dont sont issues les technologies de l'information et de la communication. Nous n'aurions ni laser, ni l'espoir de voir l'information quantique venir prendre sa place dans notre univers technologique. Sans la théorie du mouvement brownien, Jean Perrin n'aurait pas réussi à déterminer le nombre gigantesque d'atomes contenus dans un infime fragment de matière et pour se rapprocher de l'actualité, que l'on songe aussi aux travaux passionnants de notre confrère Denis Le Bihan qui visualise la pensée en action grâce à l'IRM fonctionnel et utilise à cet effet cette même théorie d'Einstein du mouvement brownien. Il faut une singulière myopie, mais c'est une affection répandue, pour ne pas percevoir que les technologies qui ont marqué le siècle qui vient de s'achever sont nées de la compréhension fondamentale du monde. Où en serions-nous si ces grands esprits qui ont marqué le siècle passé n'avaient pas découvert les lois quantiques qui régissent la matière ou la structure moléculaire gouvernant l'hérédité? Plus que jamais, en notre 21e siècle, c'est cette même logique qui est à l'œuvre. Il nous appartient d'en convaincre nos concitoyens, car l'avenir de notre pays est en jeu. 24 nouveaux membres nous ont donc rejoints au début de cette année. Ils sont très remarquables, vous allez en juger par vous-même dans un instant. Mais je me tourne vers eux en leur demandant de bien vouloir ne pas considérer cette élection comme une simple ligne ajoutée à leur carte de visite. Notre compagnie a pour elle sa compétence que vous renforcez significativement et son indépendance. C'est pourquoi elle est au service de la nation. Nos concitoyens attendent de nous que nous nous exprimions avec tout le soin qu'ils sont en droit d'exiger de l'Académie des sciences sur les questions complexes de science et d'éducation si essentielles pour l'avenir de notre société et comment ne pas les comprendre. C'est ainsi que l'Académie s'est exprimée avec clarté dans la période récente sur les questions de transgénèse animale ou végétale, sur les questions d'énergie, de climat et même il y a quelques jours conjointement avec les académies du G8, du Brésil, de la Chine et de l'Inde, sur la surexploitation des océans, sur les dangers d'un principe de précaution qui n'est pas accompagné d'un principe de progrès, sur la recherche et l'éducation dans les pays en voie de développement, etc. Nos rapports publics sur la science et la technologie sont à la disposition de tous ceux qui souhaitent s'informer et comprendre. Comme vous le voyez, la tâche est vaste, mais elle est essentielle. L'Académie nous offre, par exemple, la possibilité de dépasser le cadre de nos spécialités propres, de suivre le mouvement de l'ensemble des sciences grâce aux créateurs mêmes qui les font avancer. C'est aussi la présence dans cet Institut de France, où tant de talents divers sont rassemblés dans ces cinq académies, que l'on songe par exemple à l'apport à la climatologie de notre éminent confrère Leroy Ladurie, grâce au relevé des dates de vendange. Je voudrais également profiter de cet instant pour saluer le travail remarquable de tous ceux qui accompagnent au sein de cette maison le travail de l'Académie des sciences, qui font un travail exceptionnel et remarquable. Chers nouveaux membres, je vous souhaite donc, au sein de l'Académie des sciences de l'Institut de France, une grande réussite dans la mission et l'exercice des responsabilités qui accompagnent votre titre d'académicien. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant procéder à l'audition, à la lecture des 7 nouveaux membres parmi les 24 qui n'ont jamais donc été associés antérieurement à l'Académie des sciences. Nous allons les entendre maintenant. J'appelle d'abord Madame Françoise Combes, qui est donc membre élu dans la discipline des sciences de l'univers, qui va nous parler de la formation des galaxies et des étoiles dans l'univers.
Déjà, plus de 100 planètes extrasolaires ont été découvertes, qui nous aident vraiment à comprendre comment notre propre système solaire a été formé. Mais on ne peut pas explorer nos origines si on ne sait pas quand et comment ont été formées toutes les étoiles qui nous entourent, comme le Soleil, et quand et comment ont été formées toutes les galaxies dont on voit des milliards dans l'univers, comme la Voie lactée. Et aujourd'hui, c'est possible, même peut-être plus simple que de savoir percer les origines du mystère de la vie il y a quelques milliards d'années. Donc, notre instrument dans cette entreprise est le télescope. Le télescope, c'est une machine à remonter le temps. Comme vous le savez, plus on observe loin dans l'univers, plus on remonte dans le temps. Et aujourd'hui, on arrive à remonter 95% de l'âge de l'univers, ce qui est fantastique. On arrive à peu près à voir les premières étoiles et les premières galaxies qui se forment juste après le Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des petites galaxies beaucoup plus brillantes que l'on voit aujourd'hui. Et elles se forment en fait en se mangeant elles-mêmes par fusion et coalescence. Et aussi, elles se forment par accrétion de matière, car les galaxies ne sont pas isolées, elles sont comme dans une toile de filaments cosmiques qui sont comme leur cordon ombilical qui les alimentent tout au long de leur vie pour former des étoiles. Donc, lorsqu'on veut vraiment simuler, en fait, il y a beaucoup de simulations numériques pour reconstituer la formation des galaxies, ce qui nous manque beaucoup, c'est évidemment de connaître quelle est la constitution de la matière noire. On voit évidemment les étoiles briller, le gaz rayonner, mais ça ne constitue que quelques pourcents de la matière d'une galaxie. Donc, ce problème est quand même fondamental pour la formation des galaxies. Alors, cette matière noire, elle est de deux sortes. Il y en a une qui est tout à fait ordinaire, c'est-à-dire formée d'atomes, comme ceux qui nous constituent. Et on ne sait toujours pas sous quelle forme est cette matière d'atomique. On sait par contre combien il y a d'atomes dans l'univers, car c'est une contrainte de la nucléosynthèse primordiale. Un quart d'heure après le Big Bang, il s'est formé de l'hélium et de deutérium. On les mesure, l'abondance aujourd'hui, on sait quelle est l'abondance des atomes dans l'univers. Or, on sait qu'on n'en observe que 10%. Donc, ça veut dire que 90% des atomes sont complètement invisibles, c'est la matière noire obscure. Donc, nous avons proposé, il y a à peu près quelques années, une dizaine d'années peut-être, avec Daniel Fenniger de l'Observatoire de Genève, que ces atomes obscurs pourraient être sous forme de gaz, d'hydrogène moléculaire, très froid, à 10 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 263 degrés Celsius. Et ces nuages, enfin, ce gaz moléculaire, serait sous la forme de nuages comme le milieu interstellaire visible, serait sous forme de fractales, sur une gamme d'échelles de 9 ordres de grandeur en masse, c'est-à-dire allant de 1 millième de la masse du Soleil, c'est-à-dire une masse de Jupiter, jusqu'à 1 million de masse solaire. Et cet ensemble est tout à fait invisible et correspond exactement aux observations. Alors nous sommes heureux aujourd'hui qu'on commence à observer cette matière obscure que nous avions prédite dans le voisinage du Soleil par la réaction avec les rayons cosmiques. Alors il y a une première sorte atomique, mais il y a aussi, ça ne suffit pas, il y a une autre sorte de matière noire qui est faite de particules complètement inconnues. On ne l'a jamais vue dans les accélérateurs. C'est ce qu'on appelle matière noire exotique. Et cette matière noire, elle pèse 6 fois plus que la matière noire atomique. Ça, c'est une contrainte fondamentale. Donc nous nous en servons dans les simulations numériques. Elle est absolument nécessaire, car sans la matière noire exotique, on ne pourrait pas former les galaxies. En fait, dans le Big Bang, l'univers est très très chaud. Les atomes sont ionisés en protons et électrons et ils ne se recombinent en atomes d'hydrogène que 300 000 ans après le Big Bang. Donc ça ne suffit pas pour former des galaxies, l'expansion aurait déjà pris le dessus. Donc on a vraiment besoin de cette matière noire exotique dont on ne sait toujours pas de quoi elle est formée pour nous former les galaxies. Maintenant on sait, dans les simulations numériques, on a montré comment se forment les premières étoiles qui n'ont rien à voir du tout avec les étoiles qu'on voit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus massives. Et on sait aussi quelle est l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers. On sait qu'il y a un pic, une flambée de formation d'étoiles à la moitié de l'âge de l'univers, c'est-à-dire il y a 6 milliards d'années. Et on sait qu'aujourd'hui, le taux de formation d'étoiles s'est complètement tombé. Aujourd'hui, notre Voie lactée, qui a à peu près 200 milliards d'étoiles, ne forme plus que 2 ou 3 étoiles par an, ce qui est assez faible. Alors, un autre point aussi est que lorsqu'on veut former des étoiles, le mécanisme qui permet à une galaxie de croître et d'accréter de la masse, ce sont les instabilités gravitationnelles qui donnent lieu aux ondes de densité, qui sont des barres et des spirales. Donc les bras spiraux que vous voyez dans les galaxies ne sont pas des décorations, mais c'est essentiel pour la croissance de la galaxie. Et notre équipe a justement montré quelles étaient les variations de la morphologie d'une galaxie qui passe de spirale barrée à une spirale ordinaire. Alors à chaque fois qu'une galaxie passe dans un épisode barré, beaucoup de gaz tombe vers le centre de la galaxie, qui est un trou noir. Alors un trou noir est quelque chose de très compact, où même la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière, donc la lumière n'en sort pas. Mais paradoxalement, ce sont les objets les plus lumineux de l'univers, puisqu'ils donnent lieu au phénomène de quasar. Alors le quasar est très 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 lumineux, puisque la matière en tombant nous rayonne de l'énergie de masse, qui est bien plus supérieure à l'énergie nucléaire qu'il y a dans les étoiles. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a un trou noir au centre de chaque galaxie, dans la nôtre aussi bien entendu, et on s'est aperçu dans les simulations numériques que ce réveil des quasars, lorsqu'on fait tomber de la masse dessus, stoppe la chute de gaz qui forme les galaxies. Donc il y a un phénomène d'autorégulation qui fait que finalement on comprend bien que les trous noirs et les galaxies vivent et croissent simultanément et s'autorégulent, et on a observé en effet un rapport de proportionnalité constant entre la masse du trou noir et la masse du galaxie. Donc je ne veux pas dépasser mon temps, mais en fait j'aimerais dire tout de même que la cosmologie aujourd'hui a connu une révolution. On sait qu'il y a à peine 10 ans c'était une science très spéculative, aujourd'hui c'est une science précise, on peut vraiment faire des formations de galaxies avec une théorie rigoureuse, mais on n'est pas vraiment au bout du chemin, puisqu'on s'est aperçu en 2002 avec le satellite WMAP que la matière, visible ou invisible, n'était que le tiers du constituant de l'univers. Pour les 2 tiers, on a de l'énergie noire, dont on ne connaît rien du tout, sauf qu'elle accélère l'expansion de l'univers, ça a été montré, et peut-être constitue un 5e élément que certains appellent la quintessence. Donc vous voyez que plus on découvre de phénomènes, et finalement plus il reste à découvrir. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister à un reportage en direct sur la naissance de l'univers par Madame Combes. Je vous propose maintenant d'écouter Madame Eva Pébé-Péroula qui nous parle des protéines de transport, garde-barrière des membranes.
Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, les protéines sont les principaux acteurs du vivant, non seulement par leur quantité, mais aussi par la diversité des fonctions qu'elles exercent, fonctions qui vont de la catalyse de réactions chimiques jusqu'à la structuration de la matière vivante. Ces protéines sont faites de longues chaînes d'acides aminés qui vont se replier dans l'espace, et c'est cette structure tridimensionnelle qui est à la base de leurs fonctions. Connaître cette structure tridimensionnelle au détail atomique près Comprendre ses propriétés dynamiques, suivre les changements de conformation d'une protéine en action, relier ses connaissances aux informations biochimiques et fonctionnelles, cet ensemble constitue le cœur de la biologie structurale. Et cet ensemble permet de comprendre de façon très avancée la fonction des protéines. Parmi l'ensemble des protéines, j'ai un faible pour les protéines membranaires. Alors, comme leur nom l'indique, elles sont intégrées dans les membranes, membranes qui délimitent les cellules, les compartiments cellulaires, et qui sont faits principalement de lipides et de protéines. Alors, de façon très approximative, on peut dire que les lipides ont un rôle mécanique, c'est-à-dire qu'ils assurent la compartimentation, ils assurent l'étanchéité, alors que les protéines ont un rôle fonctionnel et vont permettre toute la communication entre ces compartiments cellulaires, entre les cellules, que ce soit la signalisation ou le transport ou la diffusion d'ions et de petites molécules. J'aimerais illustrer l'intérêt de la biologie structurale des protéines membranaires par deux exemples. Ces deux exemples sont tous les deux reliés à la production d'énergie nécessaire à la cellule. L'élément central de cette production d'énergie, c'est la synthèse de l'ATP, adénosine triphosphate, qui est une petite molécule qui sert de carburant à la cellule puisque son hydrolyse en ADP, adénosine diphosphate, libère de l'énergie. Pour être réalisée, cette synthèse nécessite un gradient de protons de part et d'autre d'une membrane. Chez certaines bactéries, ce gradient de protons résulte directement de l'énergie de la lumière. C'est-à-dire que cette bactérie a une protéine, qui est la bactériorhodopsine, qui est une protéine membranaire, qui est capable d'absorber la lumière et en retour d'expulser un proton à l'extérieur de la bactérie. Les études structurales de cette protéine au repos, mais aussi en action, c'est-à-dire juste après l'illumination par un flash de lumière, ont mis en évidence l'existence d'une molécule d'eau piégée au centre de la protéine. Et cette molécule d'eau, après absorption de la lumière, est déstabilisée, et cette déstabilisation entraîne des réarrangements structuraux qui se propagent à travers la protéine et qui permettent le transfert de protons. Donc vous voyez qu'une seule molécule d'eau est l'élément clé pour démarrer ce processus et qu'il faut donc des études fines pour la détecter et pour pouvoir la suivre. Maintenant, dans les cellules eucaryotes, la situation est beaucoup plus complexe et la synthèse de l'ATP se fait dans des compartiments spécialisés que sont les mitochondries. Donc, il va falloir exporter cet ATP vers le cytosol de la cellule, là où il va être utilisé, et en retour importer l'ADP pour qu'il soit régénéré en ATP. Cette action de transport est assurée par une protéine membranaire qui est le transporteur ADP-ATP. Comprendre le mécanisme de transport maintenant suppose plusieurs choses. D'une part, il faut comprendre le mécanisme qui permet de reconnaître la petite molécule qui doit être transportée sur un côté de la membrane, et ensuite comprendre les changements structuraux de la protéine qui vont permettre de relâcher cette petite molécule de l'autre côté de la membrane. Ces changements structuraux peuvent être assez grands, donc des grandes amplitudes, et demandent à être contrôlés. Et ce contrôle est fait par le reste de la membrane, par les lipides environnant la protéine. Donc cette membrane, c'est un film mince formé de lipides, c'est un film d'environ 5 nanomètres, qui est parfaitement étanche. Grâce aux propriétés dynamiques des lipides, les protéines qui sont insérées dans ce film ont la capacité de diffuser latéralement. Donc tout se passe pour la protéine comme si elle était confinée dans un espace à deux dimensions. Et pourtant, le transport se fait dans la troisième direction. Cette apparente contradiction de dimensionnalité, en fait, ne reflète que le fait que la description de l'interaction des lipides avec la protéine doit se faire à deux échelles différentes. D'une part, une échelle mésoscopique, à laquelle la membrane, de façon globale, exerce une certaine pression latérale sur la protéine et va contribuer à maintenir la structure et à stabiliser sa conformation, et à contrôler donc les modifications structurales. Et d'autre part, à l'échelle moléculaire, à laquelle les lipides individuels interagissent avec la protéine et contribuent à la structure de cette protéine. Le lien entre ces deux échelles reste quelque chose de difficile à établir. Et les enjeux de la biologie structurale actuelle sont non seulement de continuer à comprendre l'échelle moléculaire, mais d'intégrer cette échelle moléculaire à l'échelle de la membrane et donc de se rapprocher du contexte cellulaire. Je voudrais rajouter une phrase un petit peu plus personnelle et dire que dans les moments clés de ma carrière, et surtout en début de carrière, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de scientifiques remarquables. Certains sont dans la salle aujourd'hui et je tiens à les remercier car cette aide était un soutien inestimable. Finalement, je voudrais exprimer une pensée pour ma famille qui, en plus de l'ATP, est ma source d'énergie quotidienne et préférée.
Merci beaucoup, madame. J'appelle maintenant monsieur Albert Fert qui va nous parler de Spintronic. Le spin s'invite en électronique.
Monsieur le ministre, monsieur le président, madame et monsieur les secrétaires perpétuels, chers amis, je suis très honoré, bien sûr, et très ému d'être ici aujourd'hui. J'apprécie infiniment le privilège qui m'est donné de participer à la vie de l'Académie dont je découvre la richesse. Je suis physicien. La physique m'a beaucoup apporté, m'apporte toujours beaucoup. Je suis un physicien heureux de voir que les pures constructions de l'esprit de mes premiers travaux se sont concrétisées aujourd'hui dans des réalités de notre vie quotidienne. Je suis un peu émerveillé quand je constate que l'influence du spin sur la mobilité des électrons, ce que Jan Campbell et moi avions décrit à la fin des années 60, sert aujourd'hui à la lecture des disques durs de tous les ordinateurs, aussi bien dans mon labo que chez mon épicier. Je ne veux cependant pas dire que la principale satisfaction du chercheur vienne uniquement des applications de ses recherches. C'est un plus qui nous intéresse tous, mais enfin, je crois que la récompense essentielle, c'est la découverte de paysages nouveaux dans le domaine de la connaissance. La surprise de cette découverte, il y a toujours une surprise, et le plaisir d'explorer ces paysages avec d'autres chercheurs. Pour moi, la principale satisfaction vient d'avoir contribué à l'émergence d'un nouveau domaine de la physique, un petit domaine peut-être qui s'appelle la spintronique, et d'avoir partagé l'aventure avec une équipe d'abord et avec une communauté de plus en plus grande maintenant. Je vais vous décrire quelques étapes de mon parcours, depuis ma thèse jusqu'à mon activité actuelle, dans un laboratoire qui associe le CNRS, la compagnie Thales et l'Université Paris-Sud. Je vais décrire d'abord simplement ce qu'est cette spintronic, sur lequel je travaille depuis un certain temps. C'est un domaine à l'interface entre l'électronique et le magnétisme qui exploite une caractéristique quantique de l'électron, son spin, un vecteur que l'on peut décrire comme un vecteur associé à l'axe de rotation de l'électron sur lui-même. L'électronique classique déplace les charges, crée des courants électriques, déplace les électrons en agissant sur la charge électrique de l'électron. La spintronique, au contraire, agit sur le spin de l'électron. Alors, comment ? Le concept général, en simplifiant, de la spintronique, c'est de placer sur le trajet des électrons des couches très fines de matériaux aimantés, de métal magnétique comme le fer, par exemple, des couches très fines, quelques atomes seulement. Et ces couches très fines filtrent les électrons selon l'orientation de leur spin par rapport à l'aimantation de la couche. Et par exemple, si je veux décrire le mécanisme de la magnétoïsson géante, qui a été le premier phénomène de spintronique, elle est observée dans des multicouches, des empilements de couches de fer et de chrome, par exemple. Un petit champ magnétique aligne toutes les aimantations des couches de fer, accorde tous les filtres, hein, c'est-à-dire laisse passer à ce moment les électrons partout et ouvre la porte au courant. Dans le disque dur, quand nous lisons le disque dur, ce sont les champs minuscules, les petits champs magnétiques créés par les inscriptions sur le disque qui alignent les aimantations d'une multicouche, ouvrent la porte au courant et permettent ainsi aux inscriptions d'être détectées avec une très grande sensibilité. D'où vient la physique en jeu dans la spintronique? En grande partie, elle vient des avancées amenées par l'école Friedel à Orsay dans la théorie des métaux et des métaux magnétiques en particulier. Et les racines sont plus particulièrement dans les travaux qui ont montré l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans ces métaux-là. Le sujet de ma thèse, sous la direction d'Ian Campbell, était de étudier cette influence possible du spin qui avait été suggérée par le prix Nobel anglais Sir Neville Mott. Et nous avons pu, à l'époque, montrer cette influence, la quantifier et l'interpréter dans les modèles développés par Friedel, Blandin, Gautier. Cependant, à cette époque-là, il était impossible d'aller plus loin dans la direction de la spintronique. Il était impensable de fabriquer des couches aussi fines que 1 nanomètre, quelques atomes seulement. À cette époque-là, j'ai mis quelques idées au frigidaire et je me suis intéressé à beaucoup d'autres problèmes. Les progrès technologiques sont venus au milieu des années, 15 ans après, au milieu des années 80. À cette époque-là, j'étais au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Alain Fiedrich dirigeait un groupe de recherche de la compagnie Thomson qui avait développé la méthode d'épitaxie par jet moléculaire pour la préparation de couches très fines de semi-conducteurs. Nous avons discuté lors d'un congrès à San Diego sous les palmiers et nous avons établi une collaboration pour l'adaptation de cette méthode à la fabrication de multicouches magnétiques, et les progrès ont été assez rapides et nous avons découvert la magnétorescence géante, le premier phénomène de spintronique, en 1988, découverte qui a été confirmée quelques mois après par une équipe allemande qui a obtenu des résultats un peu identiques. Je dois associer à cette découverte l'ingénieur de Thomson CSF, Patrick Etienne, qui était l'expert de l'épitaxie par jet moléculaire, et trois remarquables jeunes chercheurs, Agnès Barthélémy, Frédéric Vando et Frédéric Petrov, qui étaient mes doctorants à l'époque et qui depuis constituent le cœur de notre équipe. Cette découverte a déclenché beaucoup de travaux qui ont confirmé un peu partout dans le monde l'intérêt d'une électronique exploitant le spin de l'électron, et les applications aussi ont rapidement suivi. Dès 1993, diverses applications de la magnétoscopie géante, et depuis 1997, l'application à la lecture des disques durs de tous les ordinateurs, la sensibilité de la magnétoscopie géante ayant permis un accroissement par un facteur 100 environ de la densité d'informations stockées sur un disque. Et il y a aussi d'autres applications qui vont prochainement arriver de phénomènes de spintronique, en particulier les MRAM, ce qui s'appelle MRAM, qui sont des composants de type mémoire d'accès rapide et aléatoire qui vont concurrencer les RAM à semi-conducteurs des ordinateurs actuels et certainement auront un impact important dans toutes les technologies de l'information et de la communication. Ma recherche en spintronique et en nanomagnétisme se poursuit actuellement dans l'unité CNRS Thales Université Paris Sud que Alain Fiedrich et moi-même avons créée il y a 10 ans. La spintronique a évolué rapidement ces dernières années, couplée au développement de toutes les nanotechnologies, et la jeune et petite équipe de l'unité CNRS Thales a eu des contributions importantes à ce développement. Par exemple, elle a été pionnière dans l'exploration d'un nouveau phénomène qui s'appelle le transfert de spin, et qui permet de changer, de manipuler l'aimantation d'un corps magnétique sans appliquer aucun champ magnétique, simplement par une espèce de transfusion de spin amenée par un courant électrique. Et c'est un phénomène qui va certainement avoir beaucoup d'applications, soit pour la commutation de dispositifs de spintronique, soit également pour l'émission nous travaillons aussi sur un autre axe de recherche, c'est la spintronique avec semi-conducteurs, c'est-à-dire l'axe de la fusion entre électronique traditionnelle et spintronique. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec cette jeune équipe de chercheurs, de post-docs et de doctorants passionnés de l'unité CNRS Thales. Certains d'entre eux sont dans l'assistance et ça me plaît de voir cette jeune garde côtoyer un certain nombre des physiciens plus âgés qui ont inspiré mes premiers travaux. Ce sera ma conclusion. Je vous remercie pour votre...
J'appelle maintenant M. Jacques Lucas qui va nous parler des solides à l'équilibre et hors d'équilibre.
Monsieur le ministre, Monsieur le président, Monsieur le vice-président, Madame, Monsieur les secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, l'honneur et le plaisir de siéger parmi vous dans cette enceinte prestigieuse, je le dois à un domaine de la science relativement jeune qui m'a amené à explorer le monde de la conception, de la création et de l'étude de matériaux solides inédits. J'ai consacré les 15 premières années de ma vie scientifique à la chimie dite à l'équilibre, c'est-à-dire ceux représentés par des composés que la thermodynamique définit comme étant dans leur état de stabilité maximum. Mes collaborateurs et moi-même avons ainsi contribué à enrichir la chimie des fluorures et des oxydes par la découverte de nouveaux solides, le plus souvent sélectionnés dans des familles comme les actinides ou les lanthanides. En mimant les solides naturels que sont les minéraux, nous avons eu la chance de pouvoir créer de nouvelles espèces chimiques, en particulier dans la famille des composés appelés pyrochlores, qui sont des matériaux cubiques très stables, présentant des propriétés physiques remarquables comme la ferroélectricité. Notre contribution à la chimie des fluorures, en particulier de ceux de zirconium, a été marquée par la mise en évidence du comportement très singulier de ces matériaux, qui se manifestent par des phénomènes de non-stoichiométrie, c'est-à-dire par des écarts importants à la formulation idéale, et qui témoignent ainsi de la très grande originalité et la grande flexibilité de ces réseaux solides. Notre entrée dans le monde des solides hors d'équilibre, c'est-à-dire des verres, s'est faite un peu par hasard, en explorant à l'époque des compositions fluorées candidates à la réalisation de micro-lasers. Dans sa définition la plus simple, un verre peut être considéré comme un liquide figé, gelé, ayant donc une viscosité infinie et qui se comporte comme s'il avait oublié de cristalliser lors du refroidissement. Cet étrange état de la matière, qui échappe aux règles classiques de la thermodynamique, produit donc des solides en sursis, prêts à tout instant à revenir à l'équilibre par cristallisation. Ce comportement vaut surtout pour les verres non conventionnels que nous avons étudiés et non fort heureusement pour les verres à base de silice qui font partie de notre quotidien et qui, eux, heureusement, mettent un temps géologique pour revenir à l'équilibre. Les 25 dernières années de notre activité scientifique ont donc été totalement consacrées à la recherche de combinaisons chimiques nouvelles conduisant à des solides vitreux. Dans leur état idéal, les verres sont remarquables parce qu'ils constituent des milieux homogènes dans lesquels la lumière peut se propager quasiment sans rencontrer d'obstacles. Ils sont aussi uniques, car se souvenant de leur statut d'origine de liquide, ils acceptent par chauffage de devenir des solides plastiques que l'on peut souffler, que l'on peut mouler ou que l'on peut transformer en fibres optiques. La découverte des verres de fluorure, qui sont à l'origine de notre première incursion dans ce monde du verre, a eu un impact international inattendu, en particulier dans le monde de l'optique et plus précisément dans celui des télécommunications par fibre. Ces verres possèdent en effet des potentialités d'ultra-transparence exceptionnelles, autorisant des transmissions de signaux optiques sur de très très longues distances. Dopés par des terres rares luminescentes, ils ont également permis le développement d'une nouvelle génération de fibres laser et d'amplificateurs optiques. Notre seconde aventure heureuse dans ce monde du verre, non conventionnel, s'est déroulée lors de l'exploration d'un autre secteur peu visité de la chimie, représenté par la famille des sulfures, des sélénures et des tellurures. De ces études sont nés des verres de couleur noire, donc opaques à la lumière visible, mais dont la transparence, par contre, s'étend très loin dans l'infrarouge. Encore une fois, c'est un partenariat très fort avec nos collègues opticiens qui a largement contribué à mettre en valeur les remarquables potentialités de ces vers et à nous faire sortir du domaine strict de la chimie pour découvrir le monde du non-visible, du rayonnement thermique, de la chaleur, c'est-à-dire de l'optique infrarouge. Cette escapade hors de notre métier d'origine est allée suffisamment loin pour que nous ayons pu franchir avec succès le parcours chimie fondamentale, études optiques, développement, puis valorisation par la création d'une société industrielle spécialisée dans la fabrication d'optiques moulées pour caméras infrarouges. Ces caméras sont utilisées pour la vision nocturne, l'imagerie thermique, en particulier pour l'aide à la conduite de nuit ou par temps de brouillard. Des systèmes équipés de nos verres fonctionnent actuellement sur quelques modèles prototypes de voitures de luxe aux États-Unis. Cette politique de valorisation, nous l'avons aussi appliquée à la fabrication de fibres optiques. Cette démarche nous a conduit à développer des capteurs déportés permettant de mesurer in situ la signature infrarouge de molécules ou de biomolécules et de pouvoir ainsi suivre des réactions et des évolutions métaboliques en chimie, en biologie et en médecine. Les applications pratiques de ces recherches ont beaucoup aidé, bien entendu, au financement et à la visibilité du laboratoire, mais je tiens à souligner que tous ces résultats ont été obtenus et ont pour origine des idées de recherche conceptuelles et purement fondamentales. Au début de cet exposé, j'ai mentionné la particularité de ces solides capricieux, hors d'équilibre. Nous avons passé beaucoup de temps à tenter de comprendre et à maîtriser ces phénomènes de retour à l'équilibre qui sont gouvernés par des mécanismes que l'on appelle nucléation-croissance. Ceci a eu pour conséquence la découverte de nouvelles vitrocéramiques et d'une nouvelle famille de verres moussants qui présentent l'étrange particularité de doubler de volume par formation de bulles gazeuses restant emprisonnées dans la matrice vitreuse. Ces éponges de verre sont pour le moment des curiosités de laboratoire qui peut-être trouveront un jour des applications. Par contre, la connaissance approfondie des phénomènes de cristallisation du verre à l'échelle nanométrique nous a récemment conduit à développer une famille originale de vitrocéramique infrarouge, matériaux composites constitués d'un mélange intime de verre et de nanocristaux. Dans cette période pleine d'incertitudes sur la gestion de la recherche, notre objectif restera toujours de tenter de renvoyer vers la société les fruits de ce merveilleux métier qu'elle nous permet d'exercer. Le débat recherche fondamentale innovation n'est à mon sens ni conflictuel ni contradictoire. Il forme un continuum dans lequel le paramètre temps joue un rôle primordial. La chimie des verres, qui est en soi un permanent exercice d'équilibre incluant le temps, nous enseigne qu'il faut être à la fois raisonnablement pressé, mais aussi patient, pour espérer récolter, puis diffuser les bénéfices de nos efforts de recherche. Merci.
Monsieur Gérard Laumont nous parle de l'analogie en mathématiques.
Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les secrétaires perpétuels, chers amis, je remercie l'Académie de l'honneur qu'elle m'a fait en m'accueillant. Une façon efficace et séduisante de progresser en mathématiques est de procéder par analogie. Deux contextes a priori fort éloignés peuvent recéler des similitudes inattendues et se révéler en définitive intimement liés. Un exemple classique est l'analogie entre les corps de nombres et les corps de fonctions. D'une part, on a les nombres entiers et les nombres rationnels. D'autre part, on a les polynômes à une variable et les fractions rationnelles sur un corps fini. De la simple division euclidienne au très élaboré programme de Langlands, toute une branche des mathématiques peut être développée en parallèle sur les corps de nombres et sur les corps de fonctions. C'est André Weil qui est le premier à réaliser l'importance de cette analogie en démontrant l'hypothèse de Riemann sur les corps de fonctions, le cas des corps de nombres étant encore ouvert à ce jour. Dans la rénovation de la géométrie algébrique par Alexandre Grothendieck et Jean-Pierre Serre, entre 1950 et 1970, de nouveaux objets ont été introduits, tels les schémas et les faisceaux sur ces schémas. Ces objets fort abstraits sont des analogues des notions plus familières que sont les variétés, comme la droite, le plan ou la sphère, et les fonctions sur ces variétés, comme les fonctions d'une ou plusieurs variables réelles. La formule des traces et le formalisme des 6 opérations d'Alexandre Grothendieck permettent de traduire des opérations sur les fonctions en des opérations sur les faisceaux. Un des aboutissements les plus spectaculaires et aussi les plus profonds de cette rénovation de la géométrie algébrique est la démonstration donnée en 1964 par Alexandre Grothendieck pour une partie, puis en 1973 par Pierre Deligne pour l'autre partie, de conjectures formulées par André Weil en 1949. Ces résultats ont permis à Pierre Deligne, en utilisant le formalisme des 6 opérations, d'obtenir des majorations de sommes exponentielles jusque-là inaccessibles. Dans une suite naturelle à ses travaux sur les sommes exponentielles, Pierre Deligne a montré que la transformation de Fourier, si utile en physique et dans le traitement des informations, avait un analogue dans le cadre des faisceaux. C'est en prolongeant cette analogie au principe de la phase stationnaire que j'ai réussi à démontrer une formule du produit pour les constantes d'équations fonctionnelles de fonction L et effectuer par là même une étape dans le programme de Langlands sur les corps de fonction. Programme si brillamment conclu par Laurent Laforgue, ici présent. En utilisant la force de cette transformation de Fourier au niveau des faisceaux, j'ai pu également donner une démonstration de la conjecture de Weil mentionnée précédemment, plus directe que celle donnée par Pierre Deligne. Dans les tentatives des mathématiciens pour comprendre certaines théories physiques récentes, et en particulier la théorie des bosons de Higgs, Nigel Hitchin a introduit par analogie une fibration qui porte maintenant son nom. Il n'y avait aucun lien évident entre cette construction et le programme de Langland géométrique proposé par Vladimir Drinfeld par analogie avec le programme de Langland arithmétique. Pourtant, j'ai pu démontrer que la fibre en zéro de cette fibration joue un rôle crucial dans le programme de Langland géométrique. Il n'y avait pas non plus de relation a priori entre la fibration de Hitchin et une conjecture technique mais centrale du programme de Langland, connue sous la terminologie un peu baroque de lemme fondamentale. En collaboration avec Ngo Bao Chao, j'ai montré qu'il n'en était rien et qu'en fait la magnifique construction de Nigel Hitchin, ou plutôt son analogue arithmétique, était précisément l'outil qui manquait pour démontrer ce lemme fondamental pour les groupes unitaires. L'approche d'un problème non résolu par analogie avec un autre pour lequel une solution est connue n'est certes ni nouvelle ni limitée aux mathématiques, mais comme elle m'a beaucoup servi et m'a permis de répondre à quelques questions, il m'a paru naturel de la mettre en valeur dans ce discours. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Laumont. Monsieur Alain Israël nous parle de la signalisation cellulaire de la membrane plastique au noyau et retour.
Monsieur le ministre, Monsieur le président, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers consoeurs et chers confrères, Mesdames, Messieurs, le titre légèrement sibyllin de ma présentation avait simplement pour objet d'indiquer qu'alors que ce qu'on appelle classiquement signalisation cellulaire débute en général à la surface de la cellule, au niveau d'un récepteur, en réponse à un signal extracellulaire pour se propager jusqu'au noyau, la démarche expérimentale et intellectuelle que mon équipe et moi-même avons suivie depuis une vingtaine d'années a emprunté le chemin inverse. En effet, durant ma thèse effectuée à Lyon sous la direction de Joseph Huppert, j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes de régulation de l'expression de gènes, en l'occurrence à ceux d'un virus de la grippe aviaire adapté aux cellules de mammifères. Je tiens à vous rassurer tout de suite que nous ne sommes pas à l'origine de l'apparition du fameux variant H5N1 capable d'infecter l'homme. C'est au cours d'un stage postdoctoral à l'unité de Stanford que j'ai rencontré Philippe Kurulski, qui m'a proposé de rejoindre son laboratoire à l'Institut Pasteur. J'ai donc entrepris l'étude du contrôle de l'expression des gènes de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Et c'est à cette occasion que, au sein d'un petit groupe qui incluait Frédéric Loja, directeur de recherche au CNRS, qui a participé à tous ces travaux et à qui je tiens à rendre hommage à cette occasion, nous avons identifié une région de ces gènes à laquelle se fixait une protéine présente de manière ubiquitaire dans les noyaux cellulaires. Cette région et cette protéine semblent être indispensables à l'expression de ces fameux gènes de classe 1 du CMH. Nous avons décidé d'identifier cette protéine par une technique à l'époque extrêmement lourde, c'est-à-dire purification et microséquence. Pour ceci, nous avons préparé des extraits nucléaires à partir de 1000 litres de culture de cellules, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 milliards de cellules, ce qui nous a permis au final de cloner ce qui s'est révélé être la seule sous-unité constitutivement nucléaire, de la famille dite NF-kappa-B. C'est ensuite une caractérisation biochimique des mécanismes de régulation de cette voie de signalisation qui présentait alors un mode de fonctionnement d'une nouveauté radicale, lui permettant de répondre très rapidement à un signal extérieur. Les protéines NF-kappa-B sont en effet retenues, elles sont présentes avant le signal, mais elles sont retenues dans le cytoplasme par des molécules d'ancrage. Et à la suite de divers signaux, ces molécules d'ancrage sont dégradées, permettant le transport nucléaire rapide des protéines NF-kappa-B et l'activation des gènes cibles. Il est d'ailleurs ironique de noter que lors de notre purification, nous avons consciencieusement mis de côté et jeté les fractions cytoplasmiques de nos cellules qui contenaient en fait la majorité de la protéine que l'on recherchait. Depuis maintenant 12 ans, nos efforts ont été consacrés à élucider les mécanismes complexes qui contrôlent cette voie de signalisation. Ceci nous a permis en particulier d'identifier, en collaboration avec les groupes d'Arnold Munich ici présent, puis de Jean-Laurent Casanova à l'hôpital Necker, les premières pathologies humaines dues à des déficits complets ou partiels de cette voie de signalisation. Ces déficits se traduisent par un syndrome complexe qui associe un défaut de l'immunité à des atteintes de tissus tels que la peau, les dents, les ongles et les cheveux. Ces observations devraient permettre non seulement de mettre en place des outils diagnostiques, mais aussi d'envisager des traitements pour ces pathologies et nous ont en outre permis d'affiner notre compréhension des mécanismes moléculaires qui contrôlent cette voie. Parallèlement, nous avons entrepris depuis une dizaine d'années l'étude d'une seconde voie de signalisation, la voie Notch, qui était alors uniquement connue par des approches de génétique des invertébrés. Des études biochimiques utilisant des cellules de mammifères nous ont permis de montrer que cette voie fonctionne d'une manière unique et très différente de la voie NF-kappa-B, en ce sens que c'est le récepteur lui-même, après clivage, qui est transporté dans le noyau et peut ainsi activer directement ses gènes cibles. Si je ne dois retenir qu'un fait nouveau parmi tout ce que l'étude de ces deux voies de signalisation nous a enseigné, c'est le rôle universel des événements d'ubiquitination dans la signalisation cellulaire, rôle probablement aussi important, quoique plus complexe, que celui attribué depuis des décennies à la phosphorylation. Pour terminer, je tiens à préciser que l'étude des voies de signalisation, que ce soit chez les eucaryotes ou les prokaryotes, se trouve actuellement à un tournant provoqué par le séquençage de génomes en série et par l'apparition de la biologie des systèmes, ce que les anglo-saxons appellent « system biology » ou « études intégrées des systèmes biologiques complexes » associées à de nouvelles technologies ou à l'amélioration et la démocratisation de technologies plus anciennes. Ces nouveaux outils permettent d'envisager une compréhension intégrée des différentes voies de signalisation activées dans une cellule par un signal donné ou lors d'un événement de différenciation donné, ou mieux, tout au long de la vie d'une cellule dans un organisme. Le nouvel objet d'étude n'est plus seulement le gène isolé, mais le réseau d'interactions formé par l'ensemble des macromolécules, ADN, ARN et protéines. Expliquer les processus de régulation complexes, interactifs et dynamiques mis en œuvre dans la cellule s'avère maintenant être un enjeu majeur de l'après-génomique. Néanmoins, malgré l'attrait intellectuel évident que représente l'espoir de comprendre la globalité de la réponse d'une cellule à ce qui se passe dans son environnement, je suis persuadé qu'il reste de la place pour la compréhension détaillée des voies de signalisation individuelles, et en particulier pour l'étude des conséquences physiologiques et pathologiques de leur dérégulation. Je vous remercie.
Je vous remercie. Monsieur Bernard Derrida nous parle du désordre à la croissance.
Monsieur le ministre, monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires perpétuels, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir évoquer devant vous quelques aspects de mon parcours scientifique dans le domaine de la physique statistique. La physique statistique est née de l'unification à la fin du 19e siècle de la mécanique et de la thermodynamique. Elle permet de réconcilier le caractère fluctuant en perpétuel mouvement du monde microscopique et des lois de la physique à notre échelle. Beaucoup des propriétés de notre monde macroscopique sont indépendantes des détails des forces qui agissent aux petites échelles. En termes savants, cela s'appelle l'universalité. C'est une situation rêvée pour le théoricien qui peut simplifier à l'extrême les modèles qu'il étudie sans renoncer à décrire les phénomènes observables dans la nature. Au milieu des années 70, voyant Yves Pommeau étudier sur des ordinateurs de ce temps-là, c'est-à-dire préhistoriques, des systèmes dynamiques très simples, se présenta pour moi l'occasion de mettre en œuvre les idées d'universalité pour décrire la transition vers le chaos. Quelle révélation de constater qu'en jouant avec une simple application logistique, on pouvait à la fois se servir des outils puissants de la physique théorique moderne comme le groupe de renormalisation, et faire des prédictions quantitatives sur le monde réel. Un séjour à l'École normale supérieure, dans le groupe de Gérard Toulouse et Jean Vanhimenus, me permit de me familiariser avec un autre sujet, alors en plein développement, les systèmes désordonnés. Ce fut l'occasion de réfléchir à l'une des grandes énigmes de l'époque, les vers de spin et leur théorie de champ moyen. Les vers de spin sont des matériaux dont les moments magnétiques élémentaires, les spins, se figent au-dessous d'une certaine température dans des directions aléatoires, comme les atomes d'un liquide se bloquent dans des positions aléatoires pour former un ver à basse température. En 1975, Sherrington et Kirkpatrick avaient proposé et résolu un modèle de ver de spin qui porte leur nom. Si leur solution avait été correcte, leur modèle serait peut-être oublié depuis longtemps. Heureusement, elle ne l'était pas, en particulier parce qu'elle prédisait une entropie négative, et les travaux qui suivirent pour remédier à cette entropie négative furent d'une portée, d'une richesse inimaginable dans le domaine de la théorie des systèmes complexes. Giorgio Parisi proposa une solution du modèle SK fondée sur des méthodes de calcul non conventionnelles. Cette solution resta longtemps mystérieuse sur le plan mathématique et il fallut attendre près de 20 ans pour que Francesco Guerra et Michel Talagrand parviennent à en valider certains aspects. Ma contribution à ce domaine fut de généraliser le modèle de Sherrington-Kirkpatrick et de proposer des modèles encore plus simples, les modèles à énergie aléatoire. L'énergie d'un ver de spin possède un caractère aléatoire dû aux positions des impuretés magnétiques dans un métal. Dans les modèles à énergie aléatoire, on oublie tout sauf ce caractère aléatoire en choisissant pour les énergies des configurations des variables aléatoires indépendantes. Cela rend la solution mathématique beaucoup plus facile, mais curieusement, certaines propriétés des vers de spin, comme la transition de gel ou la forme de la susceptibilité, sont préservées. Les modèles à énergie aléatoire sont donc un peu au vers de spin, ce que la théorie des matrices aléatoires, inventée par Eugène Wigner en 1951 pour décrire les noyaux très excités, est à la physique nucléaire. L'effervescence autour de la théorie des vers de spin attira dans les années 80 bon nombre de physiciens de domaines voisins. Ce fut le cas d'Elizabeth Gardner, jeune physicienne britannique venue à Saclay faire de la physique des particules, qui bien vite se mit à travailler sur la théorie des systèmes désordonnés. À son retour à Édimbourg, elle était parfaitement armée pour jouer le rôle déterminant qui fut le sien dans le développement de la théorie des réseaux de neurones. Elle fut la première à savoir calculer, grâce aux méthodes de la physique statistique, la capacité maximale d'un réseau. C'est par son biais que je fus, à mon tour, embarqué dans cette nouvelle aventure. Nos outils théoriques étaient tout à fait adaptés à ce nouveau domaine et certains travaux, comme celui où nous identifions le taux d'erreur d'un réseau à une énergie ou celui, en collaboration avec Annette Zippelius sur la dynamique des réseaux dilués, furent réalisés en quelques semaines à peine. Elisabeth mourut du cancer en 1988 à l'âge de 30 ans. Et cela coïncida avec la fin de mon activité sur les réseaux de neurones. Au début des années 90, un séjour à l'Institut Weizmann, dans le groupe d'Ethan Domani et de David Mucamel, fut l'occasion de m'intéresser à des modèles élémentaires de transport et de croissance. Ce fut une porte ouverte sur la théorie des systèmes hors d'équilibre, sujet que je n'ai pas quitté depuis, et le point de départ de nouvelles collaborations avec des collègues comme Vincent Hakim, ici présent, ou Vincent Pasquier, en France, Martin Evans, Joël Lebovitz ou Jean Speer à l'étranger. Un miracle qui se produit heureusement quelquefois en physique et que des réalités, a priori très différentes, sont régies par exactement les mêmes équations. Les systèmes désordonnés et les problèmes de croissance en sont un exemple. La même théorie permet de décrire une ligne piégée par des impuretés, l'état stationnaire d'un système hors d'équilibre ou la croissance d'un milieu par sédimentation. Ces liens profonds entre des situations aussi différentes constituent pour le physicien que je suis une immense satisfaction intellectuelle. Le revers de la médaille est que, pensant aborder une nouvelle thématique, on se retrouve confronté aux problèmes non résolus que l'on croyait avoir laissés derrière soi. Une partie de notre travail est donc de s'acharner sur ces problèmes récurrents qui résistent. Non sans rappeler cette réflexion de Jean Rostand, il est des problèmes qui tourmentent au point que nous aimerions de les voir résolus même par autrui. Ce bref aperçu montre combien mon parcours scientifique résulte des rencontres et des collaborations qui l'ont jalonné. Par mes aînés, j'ai eu la chance d'être mis très tôt sur les rails de problèmes fondamentaux passionnants. De mes plus jeunes collaborateurs, j'ai bénéficié d'un enthousiasme et d'une patience sans faille. C'est donc aussi grâce à eux et à leurs efforts que j'ai l'honneur et la joie, chers confrères, chers consoeurs, d'être aujourd'hui parmi vous.
Monsieur le ministre, madame, messieurs, ceci achève la présentation des nouveaux élus de cette année. Monsieur le ministre, nous avons encore un exposé d'une quinzaine de minutes, si vous en avez la possibilité. Si votre emploi du temps ne le permet pas, nous comprendrons parfaitement les obligations d'un ministre du gouvernement. Alors, si vous en avez la possibilité, je vous en remercie. Nous donnons la parole au secrétaire perpétuel Jean Descourt, qui va nous parler de l'histoire de la Terre et le temps des hommes.
Depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis des rapports successifs de groupes d'experts internationaux comme le GIEC, le Groupement intergouvernemental d'exploration des climats, on sait que l'accroissement récent des émissions anthropiques de gaz à effet de serre devrait produire un accroissement global des températures. C'est devenu une des principales préoccupations écologique et économique et politique de l'humanité. Pour beaucoup de citoyens dans le monde, l'action de l'homme a déclenché un phénomène unique dans l'histoire qui mettrait en jeu sa survivance comme espèce dans les siècles prochains. Pendant la même période, des techniques nouvelles, spatiales, sismiques, chimiques, géologiques, et des concepts originaux mettent en évidence la dynamique et, dans quelques cas privilégiés, la cinématique des différentes enveloppes terrestres, depuis le noyau jusqu'à la haute atmosphère. Elles permettent de comprendre le processus et de placer en perspective temporelle les bouleversements redoutés. Dans l'opinion publique, les mouvements dans les enveloppes externes de la planète, c'est-à-dire l'atmosphère et les océans, les événements redoutés sont attendus à l'échelle du temps des hommes, des saisons, des années, des siècles. Ils sont d'autant plus redoutés qu'ils ne se seraient jamais produits sur la planète aussi rapide et aussi violemment. Les mouvements des enveloppes profondes paraissent connus au mieux à l'échelle du million d'années. Il y a donc une discordance majeure entre l'histoire géologique de la Terre et le temps qu'apprécient les hommes. La multiplication des découvertes et l'approche et l'approfondissement des données commenceront à éclairer le temps des hommes par l'histoire de la Terre. Toutes les sciences y contribuent. La présence depuis l'origine de la Terre de phénomènes rapides et brutaux en atteste. Avant d'aborder cette présentation, je voudrais cependant rappeler deux vérités de base, souvent oubliées à ce propos. Elles constituent le décor de mon propos. Premièrement, l'énergie initiale affectant la planète Terre et beaucoup d'autres planètes est nucléaire. Dans le Soleil d'abord, où la nucléogénèse produit des photons, ils arrivent à la surface terrestre perpendiculairement à l'équateur où il les chauffe fortement et presque tangentiellement au pôle où il les chauffe moins. La tendance à l'homogénéisation des températures induit la dynamique de l'atmosphère et des océans. En outre, par des réactions photosynthétiques, les végétaux stockent l'énergie dans le bois, les charbons, les pétroles, les gaz, les bitumes, etc. Et par ailleurs, au cœur de la planète, l'énergie nucléaire est issue de la désintégration des éléments instables depuis leur formation dans le nuage solaire originel. En outre, là aussi, des éléments radiogéniques sont concentrés dans des minerais, dans des roches magmatiques et dans des roches sédimentaires. Ceci est souvent omis. Le deuxième point est que la Terre a une histoire, c'est-à-dire un début, un présent, elle aura une fin. Cette histoire est jalonnée par une succession d'époques chacune étant caractérisée par sa propre biodiversité. L'unité de temps de cette histoire, si elle est toujours la seconde, l'année, le pas d'une époque à l'autre est d'autant plus grand que ces époques sont lointaines. Les plus anciens s'expriment en milliards d'années. Celles du dernier milliard le sont en millions d'années. Celles du dernier million en milliers d'années. Mais ces changements d'échelle sont autant de blocages psychologiques ainsi que l'ont démontré les sociologues et les psychologues. Tout se passe comme s'il y avait deux temps distincts. Le temps long, où beaucoup d'événements se déroulent, curieux, intéressants, mais sans aucune commune mesure avec ce qui se produit aujourd'hui. Tout se passe comme si l'histoire de la Terre et le temps des hommes étaient distincts, et je voudrais montrer qu'il n'en est rien. Je vais tenter de le faire en présentant la dynamique des enveloppes internes, puis celle des enveloppes externes, enfin leur interférence. Pour aborder les enveloppes internes, je ne ferai que citer, sans en dire plus, la tectonique des plaques, tant elle est connue de tous, car à chaque tremblement de terre et à chaque émission volcanique, nous allons le voir ce soir à la télévision, tous les médias l'illustrent, et souvent fort bien. Dans le manteau, fait de roches solides mais visqueuses, des courants de convection, dont l'état actuel est de mieux en mieux imagé par la tomographie sismique, sont responsables du déplacement de ces plaques. Mais c'est plus profond. Sous le manteau, il y a, au-delà de 3000 km de profondeur, le noyau liquide est un fluide de fer fondu de faible viscosité, voisine de celle de l'eau, et elle engendre des champs magnétiques terrestres. Dans ces champs magnétiques, très récemment, Le Moelle et Courtillot ont montré qu'il y avait des pulsations qui étaient courtes, mais qui affectaient des éléments aussi importants que la longueur du jour, mais pour des faibles éléments, et puis des variations dans l'ensemble des phénomènes magnétiques sur notre planète. Et ces variations, elles sont courtes, elles ont des effets qui se comptent en semaines et en jours, mais il faut bien le dire, l'effet sur notre monde extérieur, sur notre vie, n'est pas connu. Pour les enveloppes externes, dans les océans, la circulation dépend de la morphologie des bassins, du régime des vents, des forces de Coriolis liées à la rotation de la Terre et des différences de densité de l'eau. Les principaux échanges thermiques actuels sont désormais bien connus. Les eaux chaudes de surface du Pacifique sud-ouest entrent dans l'océan Indien, restent sur son flanc septentrional, contournent l'Afrique, traversent l'Atlantique à l'équateur jusqu'au golfe du Mexique, d'où ils le traversent à nouveau en rejoignant l'océan Arctique. Entre Groenland et Europe, c'est alors le Gulf Stream. Ce mouvement est compensé par celui des eaux froides profondes. Elles plongent par des tourbillons gigantesques localisés entre Canada et Groenland, d'une part, entre Groenland et Scandinavie, d'autre part. Et elles longent en profondeur les côtes américaines, puis entre Argentine et Antarctique, se déplacent vers l'est, à la base de l'océan Austral. Enfin, par paliers, elles remontent en surface dans le Pacifique, où elles se dispersent. Ce circuit dure de 1000 à 1200 ans. Et je dois dire que notre confrère Eric Orsena vient de publier un livre à ce propos remarquable de pétillance et de science, et je ne saurais trop vous en conseiller la lecture. Les courants du passé peuvent être reconstruits comme les actuels. Ils ont façonné l'architecture des sédiments où les fossiles traduisent les conditions climatiques des dépôts et parfois des transports. On sait ainsi, par exemple, reconstruire les courants marins dans l'Atlantique central, ceux dans ouverts il y a 150 millions d'années, ceux de l'Atlantique septentrional il y a 20 millions d'années, etc. Ou alors, on sait très bien reconstruire ceux qui ont fermé l'Amérique centrale il y a 4 millions d'années. Et la chose importante est que les courants modifient totalement le transport d'énergie, donc les courants modifient les climats. Et le transport de l'eau chaude et froide ne dure que 1200 ans, ce qui est tout à fait à l'échelle des hommes. Lors de rares périodes dans l'histoire de la Terre, des calottes glaciaires ont existé aux deux pôles. Alors, de faibles variations de température liées aux différents cycles de l'orbite terrestre prennent une importance considérable sur le transport d'énergie et donc sur les climats. La planète a amorcé sa plus récente entrée en glaciation il y a 5 millions d'années en Antarctique et 1 800 000 ans en Arctique. La cyclicité du forçage astronomique sur la température de l'atmosphère se lit dans les petites bulles d'air piégées dans la glace et depuis l'année dernière, en juin 2004, elle est caractérisée jusqu'à 740 000 ans dans le forage antarctique européen dit EPICA, où deux cycles de 400 000 ans ont été mis en évidence, tous deux scindés en cycles plus courts de 100 000, 41 000, 23 000 et 19 000 ans. Ces étapes se reconnaissent de refroidissement-réchauffement, se retrouvent dans les sédiments des basses latitudes. Mais d'autres variations de la température de l'air, fortes et rapides, sont superposées aux cycles astronomiques. Dans les bulles d'air des glaciers arctiques, par exemple, à une période froide succède un réchauffement abrupt qui ne dure que quelques décennies, 2 à 3. Puis, de nouvelles périodes froides reprend pour que quelques millénaires. Ces changements brutaux de température atteignent de 10 à 16 degrés Celsius au Groenland, où, par exemple, on relève que 16 de ces épisodes, dits de Dansgaard, ont existé entre 58 000 et 28 000, pour prendre un exemple parfaitement connu. La durée de chaque épisode n'est pas constante. Des échos de ces variations rapides des glaces s'observent en mer. Dans les sédiments alternent en effet des niveaux fins et fossilifères et des niveaux détritiques grossièrement classés et dépourvus de fossiles, transportés par les icebergs, fossilisant les brutales successions de périodes froides et de périodes chaudes. Ces variations climatiques tiennent à l'instabilité mécanique des calottes glaciaires et à la circulation océanique, plus qu'à des variations de l'insolation. Leur influence sur la circulation dans les océans est importante. Par exemple, lors des périodes chaudes, l'afflux d'une grande quantité d'eau froide issue de la fonte des Inland Seas a comme conséquence des blocages des courants du Gulf Stream et diminue ainsi la température de l'Europe occidentale. Je dis bien aux périodes chaudes correspondent des modifications à la baisse des températures en Europe occidentale. Et je voudrais montrer maintenant que la dynamique des enveloppes internes interfère fortement avec celle des enveloppes externes, dont elle modifie composition chimique et comportement physique. Prenons tout d'abord l'exemple des variations de gaz à effet de serre. Partons du plus efficace d'entre eux, c'est-à-dire la vapeur d'eau. Son abondance est liée à la surface des mers et des océans. Ainsi, il y a 100 millions d'années, une activité accrue de la dynamique des plaques fait déborder les océans et aboutit à noyer la moitié des continents. L'évaporation accroît la quantité de la vapeur d'eau, elle provoque des réchauffements, d'autant plus que l'activité volcanique croît également dans les zones d'accrétion et celles de subduction. La température globale moyenne atteint de 5 à 7 degrés Celsius de plus que l'actuelle. Toutes les glaces polaires fondent. Les différences de température entre pôle et équateur diminuent, donc aussi l'activité des vents et des courants, et les différentes zones climatiques s'élargissent. Alors, la biodiversité, mais surtout la quantité de matière organique, croît plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, ce mécanisme s'est produit. Arrêtons-nous maintenant un instant à un gaz, au gaz et aux poussières volcaniques. Des panaches montent dans le manteau et construisent en surface de vastes plateaux basaltiques, les uns sur le plancher océanique, les autres sur les continents. On parle alors de trappes. Les trappes ont une surface moyenne de 1 milliard de kilomètres carrés, un volume compris entre 2 et 4 milliards de kilomètres cubes, et une part très importante des éruptions dure 1 million d'années. En conséquence, les 16 principaux provinces qui ont été reconnues de ces trappes ont émises depuis 200 millions d'années, sont des pics d'émissions de gaz à effet de serre et de poussière. Et ils sont datés. On constate la forte coïncidence entre les grandes crises mondiales de la biodiversité. À chaque crise, un grand nombre d'espèces disparaît simultanément. Elles constituent même les barreaux de l'échelle géologique. Entre la crise, les espèces se renouvellent, prospèrent, on retrouve une biodiversité qui s'installe lentement. La coïncidence entre les trappes et les crises sont trop nombreuses pour ne pas y voir une causalité. Certes, à la centaine de crises de biodiversité relevées actuellement dans l'histoire de la Terre, ne sont pas corrélées des événements volcaniques exceptionnels, car beaucoup de ces événements exceptionnels ont été enfouis par la subduction dans l'océan, et surtout, il y en a qui restent uniquement dans des domaines aujourd'hui peu explorés. Les crises du monde vivant sont dues à l'abondance des gaz à effet de serre et à leur toxicité et à l'opacité des aérosols. Ces causes également ont été évoquées. On pourrait survenir lors de la chute de grandes météorites. Les deux sont possibles et les deux ont certainement existé. Nous venons d'évoquer un accroissement des gaz à effet de serre, mais il est des circonstances où la quantité de ces gaz diminue. Dans les chaînes de montagne, les jeunes reliefs sont forts, les pluies, l'érosion et les altérations abondantes, et les minéraux d'altération consomment du CO2. La couverture végétale, par ailleurs, est en grande masse piégée dans les sédiments. Elles ne s'oxydent pas tant la sédimentation est rapide. Et là encore, il y a un stockage de CO2. Il en est actuellement ainsi dans la chaîne alpino-himalayenne. Cette chaîne se forme depuis 70 millions d'années et depuis 25 millions d'années, le relief est très élevé. Le régime des moussons prend l'importance qu'on lui connaît. Et depuis lors, progressivement, il y a diminution de CO2. Ce qui réduit l'effet de serre sur l'ensemble du globe. Les modèles numériques suggèrent que ce soit là une cause possible, et c'est la plus vraisemblable aujourd'hui, du refroidissement global depuis les 5 derniers millions d'années. Et alors s'installe progressivement un régime glaciaire au pôle, fait d'alternance de périodes très froides et d'autres plus chaudes, liées, elles, à la cyclicité astronomique. De même, dans l'histoire, s'est produite il y a 300 millions d'années, à l'occasion de la chaîne Varis, c'est-à-dire hercynienne en Europe, appalachienne en Amérique du Nord, des glaciations se sont installées au pôle. Ils se sont faits de la même façon par la plus grande crise de la biodiversité des temps fossilifères. 95% des espèces vivantes fossilisables ont disparu. C'est produit à cette mode. Je voudrais, pour conclure, dire qu'il n'est pas raisonnable de considérer que ces phénomènes brutaux, que l'on connaît mal, vont avoir, par l'opération du Saint-Esprit, un effet bénéfique sur l'élévation prévisible du gaz de serre. C'est possible, mais rien n'en donne la moindre indication. Il est donc tout à fait raisonnable de poursuivre l'effort qui ont été décidés par l'Europe et d'autres pays vers la modification des gaz à effet de serre. Mais le point significatif est de dire ceci. Toutes les crises de variation de température jusqu'il y a 400 000 ans s'accompagnaient des variations en latitude des populations qui se déplaçaient pour être dans des circonstances favorables. Puis, il y a 400 000 ans, le feu a été maîtrisé, et alors, seules des populations ont migré, d'autres ont vécu sur place, ont changé leur mode de travail, leur mode de vie, et nous les connaissons. Depuis 400 000 ans, les variations climatiques s'accompagnent de plus modestes migrations des espèces végétales et des espèces animales. Mais il en est aussi de toutes les populations qui suivent le rythme des glaciations. Il est évident qu'il est possible d'y remédier par des techniques qui limiteraient l'effet de serre. Mais ces techniques doivent être mises au point, elles commencent à l'être. Mais tous les peuples exposés ne bénéficient pas de ces techniques avec la même efficacité. Ils seraient amenés, comme nos ancêtres, à entreprendre des migrations en masse, suivant leur biotope. Si les peuples riches de leur technologie ne réagissent pas dans ce but, il en sera ainsi. Pour cela, l'Académie des sciences, avec les autres académies des pays du G8, a proposé aux chefs d'État qui vont se réunir des 6 au 8 juillet de prendre deux décisions pour l'une. Elle a été rejointe par les académies de Chine, du Brésil et de l'Inde. Elle adjuge les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de CO2, bref, pour accroître la technologie dans les pays les plus développés. Pour l'autre, rejointe par les académies africaines, elle les adjure de prendre toutes les dispositions pour que l'Afrique accède aux données scientifiques et technologiques qui lui permettraient de se comporter comme les pays les plus technologiquement développés. Voilà ce que l'Académie a proposé, comme l'a dit notre président, en début de réunion. Souhaitons d'être entendus. Monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, je vous remercie de l'honneur que vous nous avez fait en étant présent. Mesdames, messieurs, la séance est levée. Je vous en remercie.
C'était la séance solennelle de réception des nouveaux élus à l'Académie des sciences, séance solennelle sous la coupole de l'Institut de France Quai de Conti à Paris, mardi 14 juin 2005 après-midi. Vous pourrez retrouver la retransmission de cette séance intégralement sur Canal Académie d'ici la fin de la semaine. Dans un instant, la suite de votre programme.